Les poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Lydie Salvergeon, merci de nous accueillir aujourd'hui à la boîte à livres.
Merci à vous.
Où vous venez donc rencontrer vos lecteurs pour parler avec eux de votre dernier roman intitulé Hymne et paru chez Seuil. Donc le point de départ, alors Hymne est présenté un peu comme une biographie de Jimi Hendrix, dont le point de départ est sa prestation le 18 août 69 à Woodstock, où ce jour-là, Jimi Hendrix entame The Star Spangled Banner. Vous parlez d'une prestation, d'un cri, hein, d'une puissance inégalée encore. Pour vous, ces quelques minutes constituent un instant historique rare, qui sans doute jamais depuis ne s'est reproduit avec une telle puissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, ce jour-là, sur cette scène-là, Jimi Hendrix est à ce point incarné dans l'histoire, ou même incarné l'histoire?
Oui, ça reste pour moi encore 40 années après un moment de foudre et un moment d'une puissance bouleversante, comme vous l'avez dit, parce que ce jour-là, Jimi Hendrix, en jouant l'hymne américain comme il le fait beaucoup plus, me semble-t-il, qu'un moment de musique. C'est un moment politique, c'est un moment poétique, c'est un moment symbolique, pour la bonne raison que cet hymne est un hymne de musique blanche, pour une Amérique blanche, qu'il se trouve que Jimi Hendrix est noir, Cherokee, avec quelques gouttes de sang blanc, et ce qu'il va faire, c'est injecter dans cet hymne américain de musique blanche la musique du blues des esclaves noirs, les sonorités nouvelles du free jazz et la lamentation des Indiens Cherokee dans les chansons que lui chantait sa grand-mère Nora lorsqu'il était petit. Première chose. Mais chose encore peut-être plus forte, ce jour-là, nous sommes en pleine guerre du Vietnam, il faut le rappeler, 69, la guerre a commencé en 59, elle se terminera en 75, et ce jour-là, Hendrix, qui a dans son orchestre même quelqu'un qui revient du Vietnam, donc qui a dû lui rapporter l'horreur de la guerre au Vietnam, qui a vu des images télévisées de la guerre, puisque c'est la première guerre télévisée, la guerre au Vietnam, Hendrix va dire, dénoncer la sauvagerie, l'horreur de la guerre mieux que tous les discours anti-guerre qui se tiennent à son époque. Ça veut dire qu'en 3 minutes 43, à la fois, il rend à l'Amérique, il restitue à l'Amérique les communautés noires et indiennes qui étaient bafouées, maltraitées, reniées, etc. Et il va rendre compte de cette guerre et en dénoncer la sauvagerie et la violence. Donc, moment très important à mes yeux, évidemment, et qui le reste, me semble-t-il, encore aujourd'hui.
Alors, bon, on parle d'une biographie, hein, c'est ce que j'ai vu un petit peu partout. Moi, j'ai été frappée par le niveau d'implication personnelle que vous inscrivez dans cette biographie. J'ai personnellement du mal à parler d'une biographie
oui,
au sens
aussi,
strict du terme.
Moi aussi,
d'accord.
Moi aussi.
C'est pour moi assez rare de voir un auteur s'impliquer autant personnellement dans son récit biographique. Dis-moi, vous inventez une nouvelle forme de récit biographique.
J'étais prise, si vous voulez, dans un nœud de contradiction.
Oui.
Je me disais d'une part que c'était un exercice d'admiration envers Hendrix et qu'il ne fallait faire qu'une chose, c'est le servir Hendrix, donc s'effacer.
Oui.
Mais en même temps, on ne peut pas faire une louange, on ne peut pas faire un exercice d'admiration si on ne s'implique pas et si on ne peut pas le faire d'une voix neutre, impersonnelle, froide et pas investie. Et donc, évidemment, je me suis investie corps et âme. Et l'équilibre qui était difficile à trouver, c'est l'espace pour parler de moi racontant Hendrix et l'espace réservé à Hendrix. Et je l'ai déjà dit publiquement, la veille de rendre mon manuscrit pour les corrections, j'ai supprimé 16 pages où je trouvais que je m'étalais trop sur mes propres émois.
D'accord.
Et pour ne pas faire de l'ombre à Hendrix.
Et vous parvenez à vous impliquer de façon très très délicate. Je vais ajouter que même si on vous sent présente, c'est quand même pas un livre dans lequel vous parlez de vous.
Non, je ne m'étale pas vraiment. Non, je Ça n'était pas le lieu, vraiment.
Alors, je trouve que c'est aussi une nouvelle forme de récit biographique, dans le sens où on n'est pas seulement dans le passé d'un personnage, d'une personne. Il y a cette part de vous qui est très importante, mais vous parlez aussi de présent.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce que ce que je trouve... c'est vrai pour Hendrix, c'est vrai pour les plus grands. Avec le temps, il y a quelque chose de leur force, de leur violence qui s'atténue. Et je voulais rendre à Hendrix sa subversion, sa puissance folle. Je voulais restituer quelque chose de aujourd'hui, de cette force-là. Je voulais dire qu'il n'était pas aussi inoffensif. Souvent, si vous voulez, le temps, les habitudes et le système marchand font qu'une œuvre devient inoffensive. Mmh. Or, Hendrix, me semble-t-il, est aussi, aujourd'hui, scandaleux.
Tout à fait.
Qu'il l'était il y a 41 ans. Et je voulais, en quelque sorte, lui restituer son scandale.
Tout à fait. Il est peut-être même aussi scandaleux, mais il est peut-être encore plus scandaleux que certains, que la plupart aujourd'hui.
Mais bien sûr. Et c'est vrai que lorsque j'écoute des groupes rock aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à côté de Hendrix, c'est souvent de la tisane.
Oui. C'est souvent... Je ne sais pas si les auditeurs de leur admettent ou partageront.
Mais il y a des groupes qui sont certainement très intéressants. Mais il est tellement puissant, il est tellement singulier, il est tellement virtuose. Il se tient tellement peu aussi un genre, parce que chanteur et musicien de rock, peut-être, mais qui peut jouer du blues. Et c'est génial, mais qui va vers le jazz, et c'est formidable, qui traverse les genres.
Qui est un autodidacte aussi. Hein.
Qui est un pur autodidacte. Oui, je raconte au début du livre quand Miles Davis lui donne des partitions à déchiffrer, il est en quelque sorte humilié, parce qu'il, lui, qui est si inventif, il trouve des choses inouïes, des accords inouïs, est incapable de lire
une partition.
Une partition, oui. Ça me touche aussi, ça, chez lui, infiniment.
Au tout début de notre entretien, vous parliez de politique, parce que c'est aussi quand même ce que j'ai senti très très fortement dans ce livre. Alors, c'est très finement amené, très subtilement. Ceci dit, je me dis, en écrivant ce livre, est-ce que vous ne souhaitez pas un petit peu réveiller aussi?
Hendrix, si on l'écoute, vraiment... Si on n'en fait pas un objet uniquement de divertissement, une variété de plus, il est infiniment politique. Et ce qui est beau chez lui, c'est qu'il est politique sans jamais le déclarer. C'est ça qui me touche chez lui. Mais il ne peut pas faire autrement que d'être politique, puisque le seul fait d'hybrider, comme il le fait, la musique noire, le free jazz et le rock, rien que ça, c'est politique. Rien que ça, c'est politique. Le fait d'oser assumer sa triple bâtardise, rien que ça, c'est politique. À l'époque, le rock est blanc à l'époque.
Oui, bien sûr.
Et les genres sont très, très, comment dire, très séparés.
Bien sûr. Oui.
Il y a le blues, il y a le rock, il y a le jazz, et tout ça sont des catégories très séparées. Et étanches les unes par rapport aux autres. Lui, les traverse. C'est en ça qu'il est infiniment contemporain, et qu'il est même, on peut dire, à l'avant-garde aujourd'hui. C'est ce que cherche à faire pas mal de musiciens d'avant-garde, je crois.
Rappelez aussi qu'à l'époque, la ségrégation existait.
Terrible, on a oublié ça. On a oublié que même Jimi Hendrix, devenu rockstar, ne peut pas monter dans un taxi pour blanc dans les États du Sud. Qu'il ne peut pas entrer dans un hôtel pour blanc dans les États du Sud. C'est en 69. Les droits civiques des Noirs sont à peu près bafoués dans toute l'Amérique. On oublie ça. Et Hendrix, sans vraiment l'expliciter, il fait au fond avancer la cause noire, puisqu'il est le premier rocker noir de l'histoire.
Tout à fait. Alors, je n'ai pas parlé de votre style littéraire au sens strict du terme. Je voudrais simplement préciser à nos éditeurs que pour moi, vous écrivez comme une vraie rock'n'rolleuse. J'espère que vous me prendrez comme un compliment.
Mais, et comment? Et comment?
Qu'autour de Jimi Hendrix, vous écrivez votre propre musique. C'est frappant dès les premières lignes. Vous poussez votre propre cri et j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de lire, bien sûr, mais d'eux-mêmes aussi pousser leur propre cri.
J'espère aussi.
Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose?
Mais le pari que je m'étais fixé, c'était de... Non pas de célébrer comme une aveugle et une dévote Hendrix, mais simplement de faire en sorte que mon écriture soit contaminée par le rythme hendrixien. Mm-hmm. Voilà, je me disais le livre sera réussi si quelque chose d'un rythme musical est retranscrit.
Oui, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai redécouvert une grande romancière.
Merci.
À travers Hymne.
Merci beaucoup.
Et je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants.
Merci infiniment. Albert.